Actu SF, les podcasts.
Bonsoir. Est-ce que oui, ça marche très bien. There is no turning back, et c'est vrai pour cette table ronde qui maintenant est condamnée à avancer jusqu'à la fin. L'intitulé, le résumé du sujet, c'est le suivant, un peu anxiogène. La forêt amazonienne, poumon de la planète et régulateur thermique, est sur le point de se transformer en savane. Entre surexploitation et conséquences directes du réchauffement climatique, elle peine de plus en plus à se remettre des sécheresses et incendies. D'autres points de bascule sont en passe d'être atteints sans qu'une réaction globale semble se profiler. Lorsque nous aurons grillé tous les fusibles, que se passera-t-il ? Oui, ça dessine un horizon des événements assez sombre, hein, on va dire. Et je me suis posé la question quand j'ai quand je me suis dit que j'allais devoir, qu'il y avait there is no turning back for me, que j'allais devoir présenter cette table ronde, de comment on allait faire. Donc il y a un thème imposé, hein, ça nous invite à discuter de l'anticipation des conséquences des catastrophes écologiques en cours et à venir, mais aussi en fait de l'éco-anxiété que fait naître chez beaucoup d'entre nous, chez nos contemporains, l'absence de rétroaction et de réaction face à cette menace. Et enfin, du coup, ça, d'un point de vue un peu réflexif, pour les auteurs que j'ai, l'autrice et les auteurs que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, c'est un peu la question du climat actuel dans lequel on écrit et de la façon dont ça teinte les créations. Alors ça, je pense que, du coup, on va aborder le thème, hein, c'est le but du jeu, et qu'on y consacrera peut-être 20-25 minutes. Et ensuite, je vous rendrai la parole parce que vous avez certainement aussi des façons de comprendre et de questionner mieux que moi les gens qui sont sur cette table ronde. Simplement, après, je vous reprendrai la parole, d'accord ? Parce que ce que je me propose, c'est d'élargir le thème sur la question des autres points de non-retour, d'accord ? Il me semble que ça permettra d'explorer d'autres facettes des œuvres de l'autrice et des auteurs que nous avons le plaisir. Et donc, d'une certaine manière, un point de non-retour dans une fiction, pour moi, ça sera à discuter, vous me contredirez peut-être, ça signifie qu'on renonce à un élément essentiel de nos certitudes sur le monde actuel, réel. Et donc ça constitue un geste libérateur, radical, pour renouveler l'imaginaire, inventer de nouveaux mondes. Et en même temps, c'est bien sûr un risque de perdre... faire perdre ses repères au lecteur, voire pour l'auteur, il me semble, de sombrer dans le prophétisme, dans l'annonce justement d'un autre monde. Pour aborder ces deux enjeux, donc on reviendra ensuite sur ce deuxième façon de voir les différents points de non-retour qu'il peut y avoir dans la construction de fiction. J'essaierai de lancer mes gentils participants sur ces sujets-là. Et donc, ça sera dans une deuxième phase, puis je rendrai la parole au public une deuxième fois. Donc, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Céline Minard. Vous êtes écrivaine, philosophe de formation, autrice de nouvelles et de romans primés, comme le roman « Faillir être flingué », paru en 2011, qui a été salué par la critique et le public pour la manière dont il réinvestit le genre du western. Votre œuvre comprend aussi des récits dont l'action se situe après la disparition de l'humanité telle qu'on la connaît, comme Le Dernier Monde, paru en 2009, qui revisite le pitch du roman de science-fiction Le Nuage Pourpre. Ça date un peu, mais j'espère que vous nous en parlerez quand même aussi. Donc Le Nuage Pourpre, c'était de Matthew Phipps Skill. Et aussi le recueil beaucoup plus récent des nouvelles qui s'appelle Plasma, qui est paru en 2021, l'année dernière. Et qui a reçu un prix.
Le Grand Prix de l'Imaginaire.
Voilà. Le Grand Prix de l'Imaginaire. Oui, non, mais ça vaut le coup hein, quand même, tant qu'à faire. Oui, on est là pour ça. Ehud Kift, vous êtes historien, vous avez étudié la radicalisation religieuse ainsi que la montée de l'enthousiasme belliciste dans l'Europe occidentale, en particulier au sein des élites intellectuelles entre 1870 et 1918, des objets d'étude qui, à mon avis, sont malheureusement de plus en plus en résonance avec le temps présent. Et c'est désolant. Vous êtes aussi l'auteur, compositeur, notamment dans le groupe des Hard Left, Lift.
Oui, l'amour fort.
L'amour fort en français.
En français.
Voilà. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais et d'un roman de science-fiction, Les Imparfaits, qu'on aura le plaisir d'aborder avec vous lors de cette table ronde. Gwen de Bonneval, vous êtes scénariste et dessinateur de bande dessinée, cofondateur de la revue de bande dessinée numérique Professeur Cyclope, et vous avez aussi été directeur de collection du secteur bande dessinée aux éditions Sarbacane. Avec Fabien Vellman, vous avez reçu en 2020 le prix René Goscinny pour le scénario du premier tome de la série Le Dernier Atlas, une uchronie dans laquelle De Gaulle a fait construire des robots géants nucléaires pour reconstruire la France, mais qui lui a permis aussi de conserver militairement l'Algérie.
C'est ça.
Et enfin, Zéphir, vous êtes artiste, auteur de bande dessinée, voyageur, blogueur, formé à l'école Estienne. Votre travail de fin d'études, Le Grand Combat, inspiré de la vie de Chaumeau, l'artiste ermite de la forêt de Fontainebleau, a été publié chez Futuropolis en 2014. Vous y tracez depuis, dans cette maison d'édition, votre sillon avec L'Esprit Rouge en 2016, qui narre la rencontre d'Antonin Artaud avec les Indiens Tarahou Maras, et le beaucoup plus récent et somptueux La Mécanique des Vides, paru en 2022, pardon, excusez-moi. Voilà. Et pour commencer, donc, je vous disais, le thème, c'est quand même d'aborder la question des catastrophes en cours et à venir écologique. Et pour parler depuis ma propre position, quand on évoque la catastrophe, je ne sais pas comment vous le faites, vous, dans vos fictions, si vous avez envie de le faire, si vous refusez de le faire, pour quel motif, mais quand on le fait en philosophie, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire, il y a des gens comme Jean-Pierre Dupuis qui disent qu'on peut défendre un catastrophisme éclairé. C'est-à-dire, en fait, on présente la catastrophe et on essaye que les gens l'imaginent et l'imaginent comme certaine, donc soient obligés de l'intégrer dans leur psyché, parce que comme ça, c'est la seule chance qu'on ait de l'éviter, d'une certaine manière. C'est une position assez schizophrène sur la compréhension de notre rapport au temps, au déterminisme, mais ça peut se défendre, d'accord ? À côté de ça, il y a une réflexion qui s'est engagée sur le fait que si on continue de dire constamment aux gens « imaginez-vous la catastrophe et imaginez-la comme étant certaine », enfin, on développe non seulement une éco-anxiété, mais une conscience effondriste où en fait ça ne sert plus à rien de lutter, il faut déjà se préparer sur la situation d'après. Et dans ce cas-là, les ambiguïtés sont importantes parce qu'on peut aussi bien aller vers des gens qui disent « soldons les comptes, mais inventons une meilleure société » que vers d'autres qui vont vers un schéma survivaliste du règne du chacun pour soi et du tous contre tous. Alors, d'une certaine manière, moi, j'ai vraiment une question naïve à vous adresser pour commencer, c'est est-ce que la conscience écologique des risques et des menaces qui planent sur nous a une influence sur votre écriture ? Et si vous avez décidé de la traiter d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que ça vous amène à comme choix éthique, à vous poser comme question éthique ? Est-ce que ça intéresse quelqu'un, ma question ? Céline ?
Je veux bien commencer, mais oui, la réponse est oui, très clairement. Évidemment, parce que ce sont des questions et des faits qui nous traversent et qui prennent forme dans les œuvres. Vous parliez du Dernier Monde tout à l'heure, et c'est un livre que j'ai écrit il y a 15 ans, à l'époque où moi je pouvais encore imaginer ça. C'est-à-dire, l'hypothèse du Dernier Monde, elle est très simple. L'humanité est morte, a disparu, il ne reste que les vêtements par terre. Il y a un seul type en orbite qui est en orbite pendant que ça se passe et qui descend une fois que tout le monde a disparu. Mais les humains sont plus là, mais les animaux sont là. Ce qu'il fait, lui, à ce moment-là, c'est qu'il fait le tour de la planète, en fait, mission qu'il se donne à lui-même, de nettoyer. Donc il fait des grands nettoyages en faisant péter les barrages, en menant des troupes de 70 000 cochons à travers des plaines pour tout nettoyer. Bon, exact. Et puis après, il se rend compte que son programme politique est peut-être un peu ambitieux et il change de mesure au fur et à mesure. Mais ça, c'est un roman d'une planète homogène, unique, unifié, c'est un grand récit, c'est un dernier grand récit, un dernier tour du monde humain, en fait. Et c'est un texte conjuratoire, très clairement, puisque toutes les expériences avec les animaux réactivent la culture humaine, au moins lors de son passage. Maintenant, c'est plus possible d'écrire ça. Pour moi, c'est plus possible. On n'est plus dans un monde qui se tient, il est déjà explosé. Ça donne plasma, ça donne des fragments qui sont indépendants, mais reliés, comme on l'a été longtemps, c'est-à-dire dans nos petites cellules, dans nos petits placards, nos petits, enfin placards, immeubles, appartements, etc., reliés par des choses très fantomatiques, que virtuelles, et dans un même monde, mais complètement explosé. Ça, c'est la forme de plasma. Donc, évidemment, toutes ces questions écologiques impriment et beaucoup, et dans la forme et dans le fond, ce qu'on peut faire, parce que c'est aussi notre façon de traiter, comme les champignons traitent certains métaux lourds. Voilà.
Merci. Tu veux rebondir?
Yes, yes. In my novel, Les Imparfaits, it's a thought experiment of how people who are obviously not reacting adequately to the ecological crisis have gotten some help from AI, from a personal assistant that actually has tried to break the impasse to make them more ecological aware. It's a part of that. It's something that they have in the air. It's a continue good advice. It's broader than just ecology, but it's a big part of it. And it had made it necessary to make that transition in that book. And my book, it's a thought experiment in how humans would react to that, because in one way, when I thought about the reaction to the ecological problems, if you look around us, you see that we are not acting adequately. So this was probably the only solution I could think of that would get people with a soft hand in the right direction in their behavior. No flying, no meat. That's a big theme in the novel. And of course, there comes an anti-reaction to that. And especially eating of meat is kind of a forbidden pleasure. The whole novel is a thought experiment of how we are, even if we have constant good advice, a benevolent artificial intelligence in our ear, there will be a kind of a populist anti-reaction to that. So that's exploring that problem that we are obviously having now, today, as well.
Est-ce que ça vous inspire aussi?
Ouais, pour répondre à la question de est-ce que ça a un impact sur mon écriture et les sujets, oui, c'est très, très, très franchement. D'une certaine manière, il n'y a jamais de retour en arrière possible sur quoi que ce soit, de toute façon. On ne peut pas infléchir la flèche du temps, ou alors on ne sait pas encore. Non, a priori, il n'y a pas de retour possible. Mais moi, ce qui m'a choqué il y a quelques années, alors que j'étais quand même déjà au fait de l'écologie, qui était déjà un tropisme personnel, c'est la puissance avec laquelle les choses se dégradaient et la rapidité aussi. Et moi, j'ai eu, il y a quelques années, un choc émotionnel assez profond qu'on peut qualifier aujourd'hui d'éco-anxiété, effectivement. À l'époque, on faisait une revue qui s'appelait Professeur Cyclope. En 2015, c'était une revue qui était coproduite par la chaîne Arte, et on avait fait un numéro spécial sur la COP21. Et à ce moment-là, moi, j'ai réalisé une petite histoire qui était légèrement décalé, en fait ça parlait de moi, mais c'était un autre personnage, mais qui traitait clairement de l'éco-anxiété, du fait que quelqu'un puisse s'effondrer avant que le monde s'effondre aussi, intérieurement. Ce qui faisait que ça avait des répercussions dans sa vie sociale. Et voilà, je... L'idée, justement, c'est de réussir à être au courant et regarder les choses en face et de ne pas s'effondrer soi-même. Ce qui n'a pas été facile pour moi. Une fois que j'ai eu ce choc-là, après, il y a des gens qui me téléphonaient pour m'interviewer sur l'éco-anxiété. Je l'ai fait une ou deux fois. Puis la troisième, je dis, je ne vais pas être monsieur éco-anxiété. Ça peut être une passion triste. Je n'ai pas envie de cultiver ça non plus. Ce qui n'empêche pas de regarder les choses telles qu'elles sont. On a la politique de l'autruche, on l'a eu depuis tellement d'années qu'il y a un moment donné, peut-être qu'il faut réussir à s'emparer de ces sujets dans ce qu'on fait en tant qu'autrice et qu'auteur pour en faire quelque chose qui puisse peut-être participer à une nouvelle culture. Et cette nouvelle culture... Et la façon de réussir à l'intégrer dans nos œuvres, moi, il y a un moment donné où j'avais une forme de pression morale, en fait. Dire, il faut absolument, qu'est-ce que je peux faire de là où je suis ? Je suis auteur de bande dessinée, je vais alerter les gens. Il y a 7 ans, quand on parlait de ça, il y a eu un petit réveil, parce qu'il y a eu le bouquin de Pablo Servigne et Raphaël Stevens sur comment tout peut s'effondrer, qui a eu un gros succès et qui a peut-être allumé quelques lanternes avec des tas de débats sur ce qu'est la collapsologie, etc. Simplement, factuellement, c'était difficile à démonter l'état du monde tel qu'il était. Et donc, à partir de maintenant, je pense que je peux difficilement écrire quelque chose qui ne soit pas en rapport avec ça. Alors, ça peut passer par la fiction. Ça peut passer par l'autobiographie, ça peut passer par un angle un petit peu différent qui est, on va remettre un peu de, même dans un monde qui est dégradé, on va remettre aussi un peu de beauté. Le monde n'est pas... Moi, il y a un moment donné où je regardais les parcs, les jardins, la forêt, et je la voyais comme dans 50 ans, et je projetais que tout était détruit, et je me baladais dans un monde qui était déjà mort. Et en fait, je me suis réveillé, je me suis dit, mais non, mais il y a encore de la végétation, il y a encore du vivant, il y a encore des gens. Peut-être qu'on peut réussir à activer aussi des liens avec le vivant autrement. Et ça passe aussi par les récits. Et ça passe aussi... Donc, la position que j'avais comme auteur, à un moment donné, de vouloir être lanceur d'alerte, je n'ai pas réussi à le faire au début. Parce que, en fait, j'avais envie de faire quelque chose qui me ressemblait quand même et qui prenait un peu de temps à élaborer, comme si je retenais une forme d'effondrement qui pouvait arriver. J'ai quand même le temps d'écrire des œuvres, de les partager et qu'on puisse éventuellement infléchir quelques trajectoires humblement, collectivement, en participant à une nouvelle culture du vivant. Quoi.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Zéphir ?
Pour répondre à la première question, celle que tu as dit, moi aussi, ça me paraît incontournable, à titre personnel, de parler d'autre chose que ça, vu ce que ça engage et vu les enjeux. Et même au niveau intime, je ne vois pas d'autres façons de raconter des histoires que quelque chose qui graviterait autour de ça. Après, j'ai l'impression que dans les champs narratifs, on peut se servir de la narration comme à la fois une caisse à outils pour décrypter le monde, comprendre, proposer des outils, et aussi comme quelque chose qui va générer des affects pour créer un mouvement, que ce soit des choses très directes, comme, je ne sais pas, là par exemple, le dernier livre de Pignocchi avec Descola, où il y a des choses, là pour le coup, très caisse à outils, où on a des... Direct, on prend conscience de notions, il y a des choses qui nous permettent de vraiment avoir une vision du réel qui se transforme. Et donc moi, c'est pas du tout ça que j'ambitionne. Enfin, mon livre, il passe pas du tout par ce biais-là. Moi, j'espère que être arrivé à travers une forme de poésie ou de choses plus contemplatives, toucher à déplacer un peu le curseur de ce qu'on appelle réel et de ce qu'on appelle nature et nous. Voilà.
À vous entendre, j'ai l'impression que, en fait, on est en effet passé au-delà d'un certain point et que la question que je posais est caduque. Et qu'en fait, vous avez tous digéré cette question de « ça suffira pas d'anticiper la catastrophe ou de la décrire ». En fait, la catastrophe a eu lieu, on est dedans. Voilà.
Le coup est parti.
Le coup est parti. et que vous êtes tous dans des formes de métabolisme où vous donnez des fictions dans un monde pour toujours différent, et que du coup, chez toi, ça a donné l'éclatement, chez toi, l'idée de retrouver une certaine poétique du présent, même dans une poétique du présent dégradée, chez toi, une façon de se remobiliser plutôt que de s'effondrer dans l'effondrement, et chez toi, une façon d'explorer les ambiguïtés qui seront de toute façon dans les transitions, les ambiguïtés politiques. Ça me paraît riche, enfin ça me paraît très riche, une fois de plus, et ça me dit qu'en fait, maintenant, le public a peut-être des questions pour alimenter voilà, notre débat, et donc je vous propose pour une dizaine de minutes de vous rendre la parole. Si vous n'en voulez pas, je la garde, hein. Moi je remets une pièce dans la machine, mais voilà. Seulement 10 minutes, je la reprendrai la parole. Hein.
Je vais faire très vite alors, merci. Je me pose la question vis-à-vis du point de vue de se mettre après la catastrophe. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire ? C'est-à-dire que la catastrophe, pour moi, par définition, c'est quelque chose de très 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 difficile à prévoir. On peut peut-être avoir des imaginaires après, prévoir le pendant, c'est encore pire, je ne vois même pas comment on peut espérer faire ça, il y a tellement de paramètres. Déjà que sur des problèmes très simples, on a du mal. Bref, est-ce que ça ne serait pas au mieux plutôt d'anticiper, d'avoir des imaginaires qui seraient avant encore pour nous permettre de préparer le plus de résilience possible, le plus d'outils possible et du coup éviter, nous préparer pour prendre un choc quel qu'il soit. Et du coup, d'avoir des imaginaires là-dessus qui seraient peut-être beaucoup plus ancrés dans le réel, du coup, mais aussi beaucoup plus exploitables, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus... Enfin, voilà. Donc, voici ma question. Merci.
Alors, je laisse la parole à qui veut. J'ai l'impression que vous n'êtes pas après, vous êtes dans la catastrophe, mais...
De toute façon, prévoir le pendant, ce n'est pas la peine, hein, puisqu'on est dedans. Après, ces affaires de développer des imaginaires qui aideraient à la résilience... Oui, je suis d'accord. C'est ce qu'il faut. C'est certainement une des voies qu'il faut explorer, de voir comment on pourrait faire pour ne pas s'effondrer pendant l'effondrement. Effectivement, il en va de notre survie psychique, physique, et ça, c'est des pistes à explorer et certainement des utopies concrètes à réimaginer, à réimplanter dans l'imaginaire et dans la réalité.
For me, the aspect of preparing, I agree with you that the catastrophe is already going. So I think the challenge is to also stay a democracy and also deal with people who don't see it yet as a catastrophe. I don't know how it is in France, but in Holland and also in the United States, for instance, a great deal of the public don't see it as a catastrophe just yet. They see it as either a hoax, either a World Economic Forum way of taking over power. They deny the catastrophe. And somehow we got to do that too in this transition to keep a debate going and not... Those are people who are a big part of our democracy too, so that's the part that I'm most active in. I think in how what went wrong in the aspect of democracy of this story of this catastrophe and how can we convince these people who are so distrustful of big organizations that are trying to deal with a catastrophe, and at the same time look be very critical of all the mechanisms of all the anti-democratic mechanisms that are also on the climate side as well and on the climate deny side obviously too. But somehow we got to break that impasse too. So it's a double challenge in some ways, I think.
Oui, moi je suis aussi d'accord sur le fait qu'il faille fertiliser les imaginaires. Il y a déjà des gens qui le font, simplement ils ne sont pas toujours visibles. Il faut aller voir du côté des ZAD aussi, de ce qui se passe. Alors tout le monde n'a pas envie de vivre comme dans une ZAD, on est d'accord. Simplement, ce sont aussi des exercices en temps réel et à la fois pratiques et philosophiques et des expériences de vie, d'autres rapports au vivant et d'autres manières d'habiter la Terre. Donc c'est très important d'aller voir du côté de ce qui existe déjà. Comme je disais, le coup est déjà parti. C'est pas toujours visible. Là, peut-être que depuis quelques années, on s'en rend un petit peu plus compte et que si on est impacté dans notre quotidien, quand je dis « on », c'est nous, ici, Européens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impactés depuis longtemps ailleurs dans le monde, mais comme c'est loin, on ne le perçoit pas, nous, et c'est nos modes de vie qui sont payés par d'autres personnes chèrement. Les expériences qui existent déjà sont importantes. Après, il y a des gens qui le font de façon plus individuelle. On va voir des gens qui essayent d'avoir des maisons autonomes, d'avoir des lieux partagés, etc., et qui cultivent l'entraide. Il y en a qui sont plus vers le survivalisme et des choses très personnelles. C'est quand même une voie qui ne peut pas durer très très longtemps. Et donc, il va y avoir toute la question de la gouvernance, et je rejoins la question sur la démocratie. Dans un monde qui est avec moins de moyens et dans lequel on cultive plus d'emmerdes, comment on va gouverner tout ça ? Donc, toutes les expériences qui ont lieu actuellement sont comme des laboratoires, peut-être, pour, à un moment donné, avoir à changer... À changer de plan, quoi, qu'on ait un plan B et aller observer ce qui existe déjà comme peut-être des manières d'habiter le monde autrement.
Ouais, je pourrais pas mieux dire. Effectivement, regarder du côté des ZAD, au point de vue très, très pratique, ce qu'ils font là, c'est assez fou, le laboratoire que c'est à échelle directe, quoi. Et puis, il y a quand même quelques lieux dans le monde où ça bouge vraiment, où il y a des choses qui sont en train de se passer très concrètement, comme au Chiapas ou au Rojava, où il y a des mises en pratique directes de modèles politiques qui peuvent vraiment changer la donne, je crois vraiment. Et aussi, je pense que j'ai lu le livre de Andrea Olga Mantovani, qui vient de sortir un livre de photos avec Baptiste Morisot, qui fait les textes en intro. Et c'est comme ça parle d'Amazonie, là, je voulais juste... Il raconte dedans, dans ce livre, il dit « Il y a en France des présidents, des militants, des myriades de citoyens et jusqu'aux enfants pour qui même abstraitement la forêt amazonienne existe, rayonne d'importance et doit être défendue, alors que l'équivalent écologique existe en Europe, autour de nous, mais demeure massivement inconnu. Il n'a pas pénétré l'espace de notre concernement et n'appelle pas de mobilisation politique. Nous n'avons pas encore créé le mythe de cet écosystème majeur. Cet écosystème, c'est une forêt qui est aussi importante que l'Amazonie, mais qui se trouve en Europe, à 20 heures de route d'ici, en Pologne, qui s'appelle Białowieża. Et ils ont construit un mur dans la forêt pour empêcher les migrants de passer, et ça empêche aussi les espèces de communiquer. Donc c'est un peu un drame à plein de niveaux. Je pense que ça passe aussi par relocaliser la lutte, et évidemment avoir une perspective internationaliste, savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais aussi... Par exemple, dans les champs créatifs, participer à mythifier, comme l'Amazonie a été mythifiée dans plein d'espaces littéraires, cinématographiques, participer à mythifier ce qui peut être mythifié aussi autour de nous, ici. C'est peut-être un peu hors sujet, mais...
Non, ça ne me semble pas hors sujet. On peut prendre une autre question de la salle ? Monsieur là-bas. Il y avait quelqu'un d'autre ?
Bonsoir. Donc vous avez un peu répondu avec l'histoire de la mythification qui est intéressante. Je me demandais ce que l'art pouvait amener, le récit, l'art, la représentation, pouvait amener aux questions écologiques. Parce que depuis tout l'été, sans vouloir trop polémiquer, il y a un groupe d'activistes qui se collent au CIMES des musées et tout, et ils ont l'air de s'intéresser à l'art que comme moyen de se faire de la publicité finalement, mais ils ne s'intéressent pas tellement aux peintures auxquelles ils s'attaquent. Et je me demandais, vous, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, ce que vous pensez que vous pouvez amener à la cause. Voilà.
Vous voyez tous de quoi il s'agit. Stop et censure. Voilà. Comme c'est chez toi que ça a commencé.
I was thinking about in Holland there are climate activists who are
Well, they're not destroying paintings, but one activist in a museum has thrown a bowl of soup over a painting of Van Gogh. Another one has done it with another famous Dutch painting, and all art lovers were confused. But for the activists, their motivation was it was a metaphor as well, because they were making the statement, well, we are not really destroying, but we're making a metaphor of destroying something that is invaluable. And that could easily be destroyed, such as the climate, and that our environment is destroyed right now. Of course, this message was way too subtle for the media, which was just pro or contra. And only a few columnists were seeing this metaphor, but in a way, that was what I thought about when you asked your question. This was a reaction of concerning art and making a metaphor of art being a precious and a value that can be destroyed as the same way, and in some way making our connection to art a part of it. But I think there are different angles to your question.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Moi, j'aurais bien jeté de la soupe plutôt sur un Renoir.
C'est vrai?
Ah oui, avec plaisir.
D'accord. Mais je devine d'autres motivations que la conscience écologique, en fait, derrière cet acte, du coup. Donc, voilà.
But there was glass before the painting, by the way. Yeah.
Encore une question? Non? Alors, je reprends la main plus facilement que je ne le pensais. Et c'est pour continuer sur l'idée de toute évidence, bon, la conscience écologique représente une chose inévitable dans la compréhension là, des points de non-retour. Mais dans la façon dont vous avez de construire vos fictions, il doit y avoir aussi une compréhension, je veux dire, quasi technique. Du fait que c'est un ingrédient de l'élaboration de la fiction, de prendre un sujet où il va y avoir un voyage sans retour, un point où tout d'un coup, peut-être soit le récit, soit le héros, soit la façon dont on le narre, devient une forme qui s'est définitivement éloignée de ce qui était attendu ou encore prévisible au départ. Alors j'ai envie de retourner un peu l'ordre de passage maintenant. Parce que Zéphir, par exemple, tu t'es intéressé au voyage d'Antonin Artaud, comme je l'ai cité, au Mexique, où il a rencontré des Indiens, où il a pris du peyote. Et il me semble que c'est une étape importante sur son chemin personnel et que ça qu'il n'a pas réussi à revenir, en quelque sorte, de ce voyage. Alors, je ne sais pas si tu l'as perçu comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'avais perçu. Maintenant, tu vois, tu as peut-être une autre interprétation.
Ça va être difficile de parler à la place d'Artaud, qui un tel monstre sacré, quoi. Il raconte que dans son voyage dans la Sierra Madre, ça a été les moments où il était le plus heureux et le plus en phase, le plus centré dans sa vie, que le peyote et les rites qu'il a vécu là-bas ont été réellement transformateurs. Après, on voit, quand on voit sa biographie, qu'en rentrant en Europe puis en Irlande, c'est là où il est vraiment parti dans une sorte de folie qui s'est ancrée, qu'il a amené à l'asile très peu de temps après ce temps-là. Donc, est-ce que ça a été un vrai point de rupture dans un sens, oui, dans un autre, non, quoi. Mais le voyage, c'est toujours, on cherche toujours à... Je crois que dès qu'on part, il y a ce côté où on veut partir pour que ça soit plus jamais comme avant, quoi. On fuit, il y a une sorte de fuite, forcément.
Là. Je crois que c'est ton tempérament de voyageur qui parle. Il y a des gens qui, je t'assure, ils voyagent pour rentrer chez eux ensuite.
Ouais. Mais là, je ne veux pas mélanger mon histoire à celle d'Artaud, parce que j'ai passé un an et demi à bosser sur la vie d'Artaud pour ensuite partir deux ans un peu sur ses traces, mais pas vraiment non plus. Donc c'est vraiment deux voyages séparés, donc je ne peux pas parler d'Artaud non plus comme ça.
Et sur la façon dont toi tu as travaillé après graphiquement, ça t'a inspiré quelque chose? Est-ce qu'il y a une évolution stylistique notable qui marque cette avancée dans de progression stylistique, ou tu as traité le sujet d'une façon, on va dire, neutre dans son...
Pour Artaud spécifiquement?
Ouais.
Prends ce que tu veux dans ma question, mon ami.
Bah, peut-être plus parler du dernier, du livre qui est donc né d'un voyage de 2 ans en Amérique du Sud, où là, pour le coup, le voyage a vraiment eu des impacts directs sur le style graphique. Il n'y a que moi qui ai ramené des images, donc je monopolise un peu le PDF. Désolé, c'est pas pour. Mais toutes les pages un peu jaunes et bleues, c'était en Amazonie, j'avais juste des bics et de l'alcool de pharmacie. Je me suis rendu compte que quand on mélange l'encre de bic avec l'alcool de pharmacie, ça fait des effets complètement fantomatiques et très électriques, très vibrants. Et je me suis dit qu'il fallait ramener cette technique que j'avais découvert là-bas avec les moyens du bord pour en faire... Donc là, c'est vraiment quelque chose où le voyage a nourri directement le graphisme et un peu la narration aussi. Quoi.
D'accord. Alors, ensuite, Gwen, on en a déjà discuté, alors j'espère que tu vas pouvoir me répondre de nouveau avec fraîcheur. C'est dans le livre dont tu signes la série de bande dessinée Le Dernier Atlas, dont tu signes le scénario avec Velman, avec Fabien. Une des choses, c'est une uchronie. Donc, dans une uchronie, forcément, il y a un point de bifurcation. On s'écarte du cours historique attendu. Simplement, il me semble que, je ne sais pas comment vous avez géré ça quand vous avez écrit, mais qu'on ne peut pas franchir un point de non-retour. C'est-à-dire, si on diverge trop dans une uchronie, le lecteur n'a plus aucune référence et en fait ne jouit plus de ce plaisir de s'écarter du chemin historique qu'il connaît.
Oui, dans ce cas-là, on aurait choisi un autre genre, en fait, si on voulait. Absolument. En fait, il y a un exercice de pensée, et dans cet exercice de pensée qui peut être... philosophique, on peut utiliser beaucoup de façons de réaliser des œuvres, mais ça peut être une anticipation, ça peut être plus ou moins éloigné dans le temps, mais ça peut aussi être l'uchronie. Et l'uchronie nous permet de parler de sujets dont on avait envie de parler et qui nous concernent, nous, aujourd'hui. Simplement, parfois, en parler frontalement, ça devient compliqué. Donc, on a fait un petit pas de côté qui est celui de l'uchronie. Il y a un sujet qui... tenait particulièrement à cœur à Fabien Velman, c'est que son père a fait la guerre d'Algérie, il était militaire, et c'est un sujet dont il était difficile de parler, et Fabien savait qu'un jour il ferait quelque chose avec la guerre d'Algérie. Simplement, en parler aujourd'hui, ça ouvre encore beaucoup de blessures, c'est difficile, et peut-être que c'était aussi difficile pour lui d'aborder le sujet frontalement. Et après, il y avait donc l'uchronie pouvait nous permettre d'aborder aussi d'autres sujets tels que la colonisation, qui est aussi en lien avec l'écologie, puisque la façon dont l'être humain s'empare du reste du monde comme étant des ressources dans lesquelles il peut piocher, c'est une forme de colonisation également. Donc, quand on regarde le dernier atlas, on dirait qu'il y a plein de genres et on se demande pourquoi ils ont mélangé tous ces genres. Mais en fait, il y a une logique intrinsèque. Quand on tirait le fil, on se rendait compte que tout ceci était lié. Et ça nous a permis beaucoup plus de liberté. C'est-à-dire que les grandes trajectoires sont là. À un moment donné, l'Algérie va devenir indépendante, mais plus tard, pour des histoires de ressources également. Et voilà, c'est ce pas de côté qui nous paraissait libérateur et important. Et en même temps, il y a une part d'amusement et d'arbitraire. Hein. Et à un moment donné, il y a Fillon qui est président de la France.
Et c'est Mitterrand, si je me rappelle bien, qui donne son indépendance à l'Algérie.
Alors là, je sais même plus.
Tu vois, moi, je crois ça.
Une fois que c'est écrit, on ne sait plus. Quoi.
Alors, moi, j'avais une question pour toi aussi dans ce style de point de rupture. C'est il y a un usage massif donc de l'intelligence artificielle dans ton futur, et en quelque sorte la question c'est: est-ce que c'est un point de non-retour, c'est-à-dire est-ce que il est, une fois que c'est introduit, il est inimaginable de pouvoir revenir en arrière? Est-ce que c'est une des hypothèses de ton travail? Parce que ce qui est fin dans l'ambiguïté politique que tu dessines dans ce futur-là, c'est que finalement, on perd justement nos repères, c'est-à-dire les idéologies du XXe siècle ont l'air d'avoir pris un grand coup de ringardisme. Donc nos attentes, nos anticipations sont parfois déçues, parce qu'en fait, on voit qu'on est dans d'autres coordonnées. Alors, est-ce que tu définirais l'intelligence artificielle comme le point de non-retour sur lequel tu as bâti ta fiction, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ?
No, well, in my book, there is a movement that tries to go back, and it looks like that they are going to succeed. The only question is that an improvement or not? And I leave that open actually in the book because lots of readers. We just react very differently to it. Some people are saying, "Oh, I thought the benevolent artificial intelligence was really dystopian. It frightened me to death," which I understand. I mean, it's not a black and white situation. It's subtle. It has benefits. And it has black sides, just like everything in our world now. But the movement back is really going back to what you call 20th century models. Mm-hmm. But it's what you can describe as the populist movement now. I mean, today in Brazil, there's going to be a big decision about the rainforest in the election of Bolsonaro or Lula. The narrative of Lula is a lot of the populist narrative that the anti movement in my book has too, and that has attractive sides, and we should not kid ourselves to that as well. So I think it's a complicated. I don't think that there is a point of no return concerning AI. I do think there is. I think we can decide. We make AI, we make it, I think there's a lot of criticism too in every step of the technology. And I think that the technology is being monitored quite carefully now. Social media right now is a much more bigger force to deal with, and that has algorithms too, of course. But the main thing is that it makes a distortion of our public debate, and that is the biggest problem we have right now. And that somehow I think is a bigger point of no return. I think that's the main one right now. Artificial intelligence can be modeled carefully, I think the risk at this point is less for artificial intelligence and more for social media.
Ok. Céline, tu as déjà en fait un peu répondu à ma question sur les points de non-retour dans ton œuvre, mais tu as développé un peu sur Le Dernier Homme, qui date un peu, et sur Plasma, tu as été très, très allusive, alors que l'humanité a aussi beaucoup changé. Elle est augmentée ou diminuée, mais en tout cas, elle n'a plus la même gueule dans ses nouvelles. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots?
Oui, ça dépend, en fait. Elle est parfois un peu hybridée, oui. Ouais. Mais pas hybridée avec tellement de machines, à vrai dire. Elle est plutôt hybridée avec des mollusques, ou des plasmones, des unicellulaires assez puissants, quand même.
Ouais.
Et pas forcément, c'est un peu à son corps défendant dans certaines situations, mais je pense qu'effectivement, là, il y a le point de non-retour, c'est que il faut négocier d'autres relations ou inventer d'autres relations aux autres corps qui ne sont pas tous humains ou pas seulement humains, ou voilà, aux bizarres, aux bestioles, aux à ce qui vit sous terre, à ce qui vole, et que on en est là, effectivement. Si on ne change pas notre rapport à l'animal, par exemple, c'est fini, quoi.
Eh bien, je crois que là, j'ai de nouveau une transition. On a fait un cercle, donc du coup, vous êtes libre d'interroger sur la partie de l'exposé que vous voulez, revenir en arrière si vous voulez, mais je vais reproposer à la salle de profiter de des minutes qui nous restent pour reposer des questions. Ou alors je remets.
Je voudrais dire un truc parce que je suis toujours, je réagis super lentement en fait. Mais la question de tout à l'heure sur ce qu'il faudrait comme fiction pour le présent et qui viendrait d'avant, je pense à un type qui s'appelle Roche ou Rauch, je ne sais pas, enfin en tout cas c'est un français, juste avant, au 19e, début 19e, un ingénieur des Ponts et Chaussées, je crois, qui invente le... pas une utopie, mais le, qui dit ce qu'il faut faire maintenant, c'est reboiser la France, mettre des arbres fruitiers dans tous les villages, au bord de toutes les routes, pour avoir des fruits à disposition partout, et de reboiser, ça va apporter l'eau, ça va faire changer le climat. Non, mais tout est là, quoi. Tout est là. Et c'est début 19e. Donc, effectivement, ça peut, par exemple, servir à des... À quelque chose qu'on devrait faire maintenant, enfin qu'on aurait dû faire il y a 20 ans, puisque vous savez, quel est le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, sinon c'est maintenant.
Oui, et je crois qu'en fait on l'a fait, c'est-à-dire qu'il y avait un déboisement de la France qui a été largement réparé dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc et d'une certaine manière, il y a des récits qui prennent vie, hein, quand
oui,
même.
Mais on a construit, c'était pas forcément des forêts, on a beaucoup fait de monoculture aussi.
Au 19e ?
Non, pas au 19e.
Ah, parce que moi, je parlais que du 19e.
Ah, ok.
D'accord.
Actuellement,
juste, on la France était plus reboisée à la fin, au début du 20e, qu'elle l'avait été au début.
Et actuellement, on l'a bien vu aussi récemment, avec des forêts de pins qui brûlent.
Voilà. Oui, ça dépend de quelle forêt on parle aussi, quoi. Si c'est que des douglas, c'est pas des vraies forêts.
Ne dis pas ça du 19e. Je crois qu'ils ont fait ça sérieusement et qu'ils avaient des problèmes pour les sols. Enfin, je suis en train de digresser, là.
Oui, mais,
quand même, hein. Mais
c'est aussi parce que la construction des bateaux n'est plus passée par le bois. Donc, il y a des bois de construction qui ont été laissés
préservés,
à la croissance. Oui. Voilà.
Les grands chênes qu'on avait plantés, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que sinon... Oui, non, si, là, voilà. Parce qu'en fait...
Bonjour.
Moi, j'ai des choses.
Du coup, moi, je veux bien revenir en fait, à la question qui avait été posée tout à l'heure, qui est, pour vous, qu'est-ce que l'art et vos pratiques dans la littérature, ou l'art en général, peut faire pour ces questions de transition? C'est une question un peu bateau, un peu large, mais moi, je serais intéressé par avoir votre avis là-dessus, avec l'ancrage que vous nous avez donné précédemment.
Moi, je veux bien y répondre. On a commencé tout à l'heure à y répondre un peu. Enfin, pour ma part, je disais que participer à une nouvelle culture aujourd'hui, on est baigné dans une culture. Alors, c'est en train de changer, justement. Donc, on est une période de transition. Est-ce que un mot qui est difficile à employer aujourd'hui fait partie des mots cramés, quoi. Mais aujourd'hui, moi, je trouvais que c'était aussi le cas aux Utopiales. Pendant des années, on était dans une espèce de proposition toujours de l'illimité, de qu'est-ce que l'homme pouvait aller encore faire de plus, de conquérir, etc. Depuis quelques années, je trouve que ça a changé, par la force des choses aussi, puis par une volonté. Et cette volonté-là, je pense qu'on peut la partager. On a bien vu qu'on était un peu tous, on ne se connaît pas, on est un peu tous sur la même longueur d'onde, de dire on a envie de participer à une culture qui accompagne le vivant. Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se dégage. Moi, après, il y a une difficulté. Je crois qu'il faut continuer à faire des œuvres qui ne soient pas seulement des œuvres morales ou uniquement liées à un impératif qui devrait répandre des messages. Je pense qu'il faut aussi le vivant, c'est l'incarner par la singularité qu'on représente nous aussi en tant qu'individu.
Est-ce que je peux
juste ajouter c'est que je pense que l'œuvre, quelle qu'elle soit, si elle ouvre un espace nouveau ou une capacité de rêver, parce que je pense que c'est ça le point, c'est que pendant des décennies, on nous a dit il ne faut pas rêver, il ne faut pas rêver. Vous savez, ça c'est quasiment de la langue cuite. Il ne faut pas rêver. Ben si, il faut rêver. Et je pense que la fiction, c'est vraiment l'endroit où on peut rêver et où on peut développer une rêverie dans laquelle prendre le lecteur. La rêverie, c'est pas forcément gnangnan, hein, mais dans laquelle on peut prendre le lecteur et où il peut respirer, au moins là. En tout cas, moi, j'écris beaucoup pour respirer déjà, moi. C'est très important de creuser dans le pragmatisme, dans il n'y a qu'une voie possible, des tunnels justement et des tunnels de traverse.
Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, mais je fais court.
Vas-y, vas-y.
C'est, je connais une collègue au CEA qui est glaciologue. Elle étudie aussi les récits des Inuits sur le changement climatique. Et ce n'est pas des récits d'anticipation de catastrophes. C'est des récits qui accompagnent les transitions présentes. Et c'est des récits où ils reprennent les formes orales avec lesquelles ils racontaient des légendes et ils les appliquent sur, il y a tel animal qui venait, il ne vient plus, mais des poissons sont revenus en revanche, attirés par des cours d'eau plus chauds, ou j'ai rencontré un ours qui était attiré par la faim et tout ça, et j'ai été obligé de lui taper 3 fois sur le nez pour pouvoir avoir le temps de redémarrer sur mon motoski et rentrer chez moi. Donc autrement dit, c'est des récits qui accompagnent le présent, en fait, qui sont ressentis comme vitaux. Ah, mais voilà, je croyais que ça complétait un peu, voilà, sans vouloir prendre.
Ouais, complètement. J'ai l'impression que la fiction, ça permet vraiment. Là, je pensais par exemple à 1984, qui est quand même le monument, mais il a tellement réussi avec ce livre à donner des outils très très directs, très concrets pour comprendre le monde, et maintenant on peut pas se passer de la grille de lecture qu'il a donnée, et qui est quand même une fiction. Ça part d'une fiction, donc. Je pense que les arts et les champs créatifs peuvent amener ce genre de choses d'impact direct sur le réel. Après, je pense qu'il faut aussi, enfin, en tout cas, j'essaye d'être conscient des limites de son propre médium et que les enjeux transformateurs. Le livre, j'ai l'impression ça a plus le même impact que ça pouvait avoir au 19e siècle. Maintenant, c'est plutôt du côté des séries, du cinéma qu'il faut regarder la force de frappe en termes de gens que ça touche et les affects beaucoup plus puissants. Où on peut, j'ai l'impression qu'on est amené à beaucoup plus ressentir d'émotions très fortes face à un film ou une bande dessinée, c'est quand même plus rare. Donc je pense que c'est complémentaire et que chacun fait avec ses compétences et son vécu. Mais ouais, voilà, juste ça.
Dire là-dessus.
Near the translation of that. Sorry. But the last question about the role of art in this question. I'm worrying about that a lot of the cautionary tales are having the opposite effect to the people that you want to convince right now. And I'm not sure. I'm thinking about art that can somehow change that discourse too. And that's just something that is very vague in my head. But I think lots of the stories right now are aimed at the public that is already convinced, and we should think about convincing people have to be yet convinced. And these are, we need narratives. We need new narratives for that, and that can be. I think art is very, very suitable for that because it has to be creative, it has to be undermining, it has to be new, and that's what I was thinking about.
C'est dans quelque sorte le mot de la fin. Moi, je pensais à Ursula Le Guin lors de l'un de ses derniers discours. Elle disait le capitalisme semble indépassable, mais le pouvoir des rois de droit divin le semblait aussi à son époque. Et en fait, les changements ont lieu. Et très souvent, il commence dans cet art qu'on pratique, nous, qui est d'écrire et de dessiner aussi. Et c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de participer à ce grand changement et à l'émergence peut-être de nouveaux grands récits qui nous augmentent notre degré de conscience que des choses bonnes ou qui préservent le futur sont possibles. Je vous remercie d'avoir assisté à cette table ronde et à bientôt.
Merci.